Donc, on commence à Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. On est à la page 29b1. La Gemara nous avait amené dans la Mishnah précédente. On avait eu une machloka entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Est-ce que on a le droit de se servir de l'argent? Donc, je rappelle de quoi on parlait. On parlait d'un cas. Si je trouve un objet que l'entretien de cet objet va me coûter beaucoup plus cher que ce que l'objet vaut. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? Je vends l'objet et je garde cet objet. Et je garde, pardon, l'argent. Alors la question que la Mishnah est posée, c'est qu'est-ce que je fais avec l'argent? Est-ce que j'ai le droit de m'en servir ou pas? Tu me dis, je dois le garder. Ok. Mais est-ce qu'entre-temps, je peux l'utiliser comme l'argent qui a été posé chez moi ou pas? Donc on a une machloka entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. S'il vous plaît. On a une machloka entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il a dit que on a le droit de se servir de cet argent. Et Rabbi Akiva a dit qu'on n'a pas le droit de se servir de cet argent. Il faut le garder jusqu'à ce que Eliyahu Nevi va venir. Et sur ça, la Gemara, elle intervient. Jusqu'à ce que Eliyahu Nevi vienne, ça veut dire que jusqu'à ce que ma chère vienne.
Ah, donc tu t'en sers jamais.
Donc je m'en sers jamais.
Mais c'est le propriétaire et...
Ah, c'est le propriétaire, bien, on lui rend, bien sûr. Alors sur ça, la Gemara a dit, donc je vous ai montré où est la Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Alacha qui est Rabbi Tarfon, la Alacha est comme Rabbi Tarfon. C'est-à-dire quoi que la Alacha est comme Rabbi Tarfon? Ça veut dire que si j'ai vendu, par exemple, j'ai trouvé une vache qui était malade, et que donc ce qu'elle va me produire ne correspond pas à ce qu'elle va me coûter, donc je la vends. D'accord, je la vends cette vache. Qu'est-ce que je fais avec l'argent de cette vache? La Alacha est comme Rabbi Tarfon, que j'ai le droit de me servir de cet argent. Mais c'est comme un prêt. C'est comme si que l'argent était placé chez moi, donc j'ai le droit de m'en servir. La Gemara raconte l'histoire suivante. Elle dit que Biyad Rahva, dans la main de Rahva, donc il y avait un Amora, il y avait un maître de la Gemara qui s'appelait Rahva, avalé, anéhu tuzé de Yatme. Donc Rahva, il avait de l'argent qui appartenait à des orphelins. De l'argent qui appartenait à des orphelins qui a été mis en dépôt chez lui. Atal et Kamed de Rav Yosef, et donc Rahva est venu chez Rav Yosef, va à Marlé, il lui a posé la question, Maou le ishtamouché begavayou, est-ce que j'ai le droit de me servir de cet argent? D'accord, on m'a mis de l'argent en dépôt, mais est-ce que le temps que les orphelins vont grandir, on a plusieurs années. Donc est-ce que d'ici là, j'ai le droit de me servir de cet argent? Alors, à Marlé, qu'est-ce qu'il a répondu Rav Yosef? Il lui a dit, Achi Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il dit, voilà, on vient d'étudier, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Alacha qui est Rabbi Tarfon. Tu viens de me dire que l'Alacha est comme Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'on a dit? Que comme Rabbi Tarfon, qu'on a le droit de se servir de l'argent dans lequel la trouvaille. Marle Abaye tout de suite a attaqué Rav Yosef, il lui a dit, mais Rav Yosef, et là, vite Mar, Allah, est-ce qu'on n'a pas enseigné sur ce dîne-là, que Amar Rabbi Chelbo, que Rabbi Chelbo a dit, Losh Amar Ravuna non Ravuna, Losh Anu Elabidme Aveda, qu'on a enseigné, et que dans quel cas on a dit que l'Alacha est comme Rabbi Tarfon, pourquoi l'Alacha est comme Rabbi Tarfon, que j'ai le droit de me servir de cet argent, c'est seulement parce que là, maintenant, c'est pas la trouvaille en elle-même. C'est l'argent de la trouvaille, comme on a expliqué. Ça veut dire que moi, j'ai trouvé une vache qui était malade, et j'ai fait le calcul qu'elle ne produira pas autant qu'elle va consommer. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait le calcul ? J'ai dit, dans ce cas-là, je la vends. C'est fatigant de vendre une vache, c'est une fatigue. D'accord ? C'est une fatigue, ça prend du temps. Donc là, dans ce cas-là, Ravuna a dit, là, dans ce cas-là, c'est seulement dans ce cas-là que les Rachamim ont permis, à celui qui a trouvé, d'utiliser cet argent. D'accord ? Cet argent, donc, qui est l'argent qu'il a récupéré en contrepartie de la vache qu'il a trouvée, par exemple. Mais, on a appris que l'argent de la perte, c'est-à-dire si j'ai trouvé de l'argent, je trouve 200 euros dans la rue. Oil vetararba, de l'otarbeu, pardon. D'accord? Alors que?
Oui, là, il n'y a pas de transformation.
Donc là, quand il n'y a pas de transformation, c'est pas ça, il n'y a pas de fatigue. J'ai trouvé 200 euros directement dans la rue. D'accord? Oui, non, le principe n'est pas le même. Rav Yosef pensait que le principe est le même. Mais on a sur ça Abaye qui lui pose la question, il lui dit qu'on a appris le contraire au Beit HaMidrash. On a appris que, même si la halakha est comme Rabbi Tarfon, que j'ai le droit de me servir de cet argent, c'est uniquement dans le cas où j'ai fourni une fatigue. J'ai fourni un effort. J'ai revendu l'objet, etc. Là on te dit, bon, t'as fourni un effort, nous aussi on fournit un effort, on te laisse te servir de l'argent. Mais si j'ai fourni aucun effort, j'ai trouvé 200 euros directement dans la rue, j'ai pas le droit de m'en servir. Donc reprenons le cas des orphelins. D'accord ? On a placé chez moi de l'argent des orphelins. Est-ce que j'ai fourni une fatigue pour ça? Non. J'ai échangé contre rien du tout. On m'a donné de l'argent, on m'a dit tu le gardes. Donc a priori, Abaye pose la question à Rav Yosef. Il lui a dit, comment tu as pu dire qu'on a le droit de servir dans cet argent? Vous voyez la question? Alors, Véané qui met au d'amour. Donc cet argent-là, l'argent des orphelins, ressemble à l'argent d'une perte. C'est la même chose. Amar, alors Rav Yosef, il a répondu à Harva, il lui a dit Zil. Il a dit, bon, Harva, c'est celui qui lui avait posé la question. Celui qui était venu poser la question, qui lui avait demandé, qui lui avait dit, est-ce que je dois m'en servir de cet argent? Donc je récapitule l'histoire. Harva, il est venu voir Rav Yosef. Il a posé la question, il a dit, on m'a donné de l'argent à garder, des orphelins, est-ce que je dois m'en servir ou pas? Rav Yosef, au début, lui a répondu oui. Il a dit, voilà, on a pris que la Rachak en Rabbi Tarfon, qu'on peut servir de l'argent. Abaye, il vient, et il dit non, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que la halakha n'est comme Rabbi Tarfon que dans le cas où j'ai fourni un effort. Et dans ce cas-là, on n'a pas fourni d'effort. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef à Arba? Rabbi Yosef, il dit à Arba, il a dit, Zil, va-t'en. Lo shafkouli, l'achrelach. Va-t'en, ça veut dire, je peux rien te faire. Il ne me laisse pas te permettre. D'accord? Alors, le commentaire pose une question. Il dit, a priori, on a une interdiction qui s'appelle l'oteler achil b'amecha. L'oteler achil b'amecha, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de colporter. C'est interdit de colporter. Et de là, la Gemara apprend dans le traité Sanhedrin, elle dit que un juge qui sort d'un tribunal n'a pas le droit de dire à la personne qui est jugée, n'a pas le droit de lui dire, écoute, tu sais, moi je voulais juger en ta faveur, mais j'étais pas la majorité, il y avait trois qui étaient contre moi, donc j'étais obligé de me plier. Il n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un colportage. Il colporte. Pour la personne qui est jugée, d'accord, pour le plaignant, pour lui, il sait qu'il y a un jugement. Et le jugement, c'est le jugement. Il ne doit pas savoir qu'il y a eu un juge qui était pour, un juge qui était contre. C'est pas son problème. Donc, a priori, les commentateurs posent la question, ils disent, quand Rav Yosef vient ici et qui dit à Harva, il lui dit, écoute, va-t'en, il me laisse pas te permettre. Est-ce qu'on rentre pas dans son problème? C'est un peu un colportage. D'accord? Et de là, le Shita Mekou Betzat, il explique, donc ça c'est un commentaire, il explique, il dit qu'on doit dire que le principe de colportage ne s'applique pas dans ce cas-là. Pourquoi il s'applique pas dans ce cas-là? Puisque, étant donné que Harva était au Beit HaMidrash. Rarba était, donc celui qui est venu poser la question, il est assis au Beit HaMidrash. Et il a suivi le dialogue, c'est-à-dire il a vu que Rav Yosef voulait permettre, et il a vu pourquoi Rav Yosef voulait permettre. Et il a vu que Abaye voulait interdire, et il a vu pourquoi il voulait interdire. Là, dans ce cas-là, quand Rav Yosef, il dit à la fin, il dit, bon, écoute, je peux pas te permettre, c'est pas un colportage, parce que celui qui était là, il a vu qu'il y avait une marloquette. Donc là, c'est pas considéré un colportage. Dans quel cas c'est considéré un colportage? Si le plaignant n'a pas assisté, à la discussion qu'il y avait entre les juges. Ouais. Là, c'est un colportage. Mais s'il a assisté, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà, maintenant, on commence la nouvelle Mishnah. Mishnah suivante. Donc, une fois qu'on a appris dans la Mishnah, on vient d'apprendre dans la Mishnah précédente, comment on doit s'occuper d'une perte, d'accord? Lorsque cette perte est un animal. Donc, on avait donné le principe. Quel principe on avait donné? On avait dit une perte qui consomme plus qu'elle produit, qu'est-ce qu'on fait avec cette perte-là? On la vend. Donc on avait donné des principes entre le petit bétail, le gros bétail, les animaux, les coqs, etc. On avait donné des exemples. Maintenant, on va parler d'autres cas. On va parler des cas qui sont un peu plus fréquents aujourd'hui. Matzas Farim. Si une personne a trouvé des livres. Alors, les livres de l'époque, c'était un petit peu comme les Sefer Torah d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était des livres qui s'enroulaient. Bon. Donc Matzas Farim. Si une personne a trouvé des livres. C'est quoi le problème qu'on a avec les livres? Le problème qu'on a avec les livres, c'est que si on les laisse trop longtemps sans les ouvrir, ils peuvent s'abîmer. Comme on sait que quand on prend un livre, on le laisse dans une bibliothèque, il peut s'abîmer. Donc, Matzas Farim, si une personne a trouvé des livres, Kore Ba'en Echad Shloshimion. Donc, je trouve un livre, je le garde chez moi à la maison, maintenant peut-être que celui qui a perdu l'objet, celui qui a perdu le livre, il reviendra chez moi que dans plusieurs années. Et il reviendra, il n'y aura plus de livre, il n'y aura plus rien, toutes les pages seront collées, toutes les pages seront cornées, il n'y aura plus rien. Donc, Kore Ba'en Echad Shloshimion, j'ai l'obligation de lire dans ce livre-là une fois tous les 30 jours. Théoriquement, l'obligation est seulement d'ouvrir le livre. Mais bon, puisqu'on me demande déjà d'ouvrir le livre, donc j'ai aussi l'obligation. Donc si je veux également lire dans ce livre, j'ai le droit. D'accord? Donc combien on a dit une fois tous les 30 jours? Je considère que passé 30 jours. Donc il ne faut pas oublier, on ne parle pas des livres comme aujourd'hui. Les livres d'aujourd'hui, vous pouvez les laisser un an, ils ne bougeront pas. Pas des livres comme un parchemin. Comme un Sefer Torah. D'accord? Puis ils sont écrits au parchemin, c'est des langues sur du parchemin. Ces livres-là, si vous les ouvrez pas une fois tous les 30 jours pour les aérer un petit peu, ça s'abîme. On les voit malheureusement dans les Sefer Torah. Les Sefer Torah qui sont laissés des années dans les armoires, on voit que malheureusement ça s'abîme. Alors qu'un Sefer Torah qui est constamment aéré, qu'on lit souvent, un Sefer Torah qui tient. D'accord? C'est pour ça que quand vous voyez de temps en temps le Sefer Torah, on le tourne, on fait passer d'une paracha à l'autre, etc., du début à la fin, ça fait du bien au Sefer Torah. C'est vrai que des fois ça force un peu sur la couture, mais ça fait du bien au Sefer Torah parce que ça aère l'écriture. Donc, Matsas Sfarim. Si une personne a trouvé des livres, on a dit Kore Bahen, Echad Eshoshim Yom. D'accord ? Kore Bahen, Echad Eshoshim Yom, il a l'obligation de s'en servir, donc de lire, au moins de les ouvrir, ces livres-là, une fois tous les 30 jours.
Pourquoi ils lui ont imposé de... Là, on est dans l'entretien du Sefer Torah, il lui impose de lire.
Non, justement, ce que je viens d'expliquer. En vérité, c'est pas obligé de lire. L'obligation, c'est de l'ouvrir. Et
pourquoi ils ont eu cette idée?
Alors, tout de suite, on va parler. Veim et Meudalikrod, Golelan. Et s'il ne sait pas lire, ça veut dire que lui, il s'est tourné un Sefer, mais il ne sait pas lire. Il ne sait pas étudier. Là, dans ce cas-là, Golelan, une fois tous les 30 jours, il doit dérouler le Sefer, d'accord, du début jusqu'à la fin. Aval, lo ilmod ben batrila. Mais si un jour comme ça il dit bon j'ai envie d'étudier aujourd'hui, j'ai pas de livre, il n'a pas le droit d'ouvrir ce livre pour étudier, parce que c'est un livre qui ne lui appartient pas. Par contre, donc écoutez bien le principe, parce qu'on verra dans la Gemara va parler de ça. Ça veut dire, une fois tous les 30 jours, je dois tourner le Sefer Torah, ou le livre que j'ai trouvé, qui était comme un Sefer Torah. Donc les livres à l'époque de l'époque étaient comme le Sefer Torah. Si quand je le tourne, j'ai envie d'étudier dedans, j'ai le droit. Puisque je ne l'ai pas ouvert pour étudier, je l'ai ouvert pour le tourner, pour le bien de l'objet. Si entre temps je veux lire, pourquoi pas. Mais si je l'ouvre pour étudier, je n'ai pas le droit. Donc ça, c'est écoutez bien ces deux cas-là, puisque la Gemara va en parler. Loïkra acherimo. Un autre, d'accord, aval, mais loïlmod ba'en batechila. On n'a pas le droit d'apprendre un nouveau sujet. Alors on verra après dans la Gemara, d'accord, on verra tout dans la Gemara. Bon, je vous dis un petit peu de quoi ça parle. Dans la Gemara, d'accord, on expliquera que, ça veut dire quoi, quand on dit un nouveau sujet, de quoi on parle? On parle si quelqu'un il ouvre le Chumash, par exemple il ouvre le Chumash, d'accord, et il va prendre une nouvelle partie de la Torah qu'il n'a jamais étudiée. Donc naturellement il va passer plus de temps. Et quand on passe du temps sur un livre, naturellement on l'abîme. Donc on te dit, regardez comment tout s'est bien réfléchi, on te dit que tu as le droit d'y étudier quand tu le tournes, mais tu n'as pas le droit de démarrer un nouveau sujet. Pourquoi? Parce qu'en démarrant un nouveau sujet, tu vas rester longtemps, d'accord, tu peux rester longtemps dessus, tu peux rester plusieurs heures dessus parce que c'est un nouveau sujet pour toi, et du coup le parchemin il peut s'abîmer. Alors, le Ramban, il explique sur ça. Il dit que ça, c'était valable à l'époque. À l'époque où on lisait principalement la Torah, la Bible. Que la Gemara, ça se transmettait oralement. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'il y avait cette différence. Que dans la Bible, les textes qu'on connaît, on les lit vite. Les textes qu'on connaît pas, on les lit lentement. Mais le Ramban, il dit qu'aujourd'hui, qu'on a la Gemara, et que dans les textes comme la Gemara, même les textes qu'on connaît, quand on les repasse, on peut rester des heures dessus encore. Donc ça change pas connaître. Donc là, dans ce cas-là, il dit que de nos jours, quand on ouvre un livre, si déjà on l'ouvre, c'est déjà qui me permet de l'ouvrir pour l'aérer, j'ai le droit de rester autant de temps que je veux parce que celui qui a perdu l'objet, il sait que de toute façon, si je l'ouvre, je devrais étudier un peu dedans. Alors, le vélo écra acher imo. Pareil, quand j'ouvre le livre pour l'aérer, quand j'ouvre donc mon parchemin pour l'aérer, une autre personne n'a pas le droit de lire avec moi. Pourquoi une autre personne n'a pas le droit de lire avec moi? Puisque chacun va tirer de son côté. Vous savez, quand on est à deux à lire, sur le même livre, chacun va tirer de son côté, et qui c'est qui prend les coups? C'est le livre. Bon, donc ça c'est pour les livres. On a compris pour les livres, donc j'ai l'obligation, les livres en parchemin en tout cas, en papier c'est moins compliqué, mais en parchemin, il fallait les aérer une fois tous les 30 jours. Donc, on a appris qu'il faut les aérer une fois tous les 30 jours, de préférence lire dedans. Si on ne sait pas lire, c'est pas grave, on les tourne, on les enroule sans le lire, mais on n'a pas le droit de démarrer un nouveau sujet, premièrement, et le écra acherimo, ça veut dire que on n'a pas le droit de lire à deux. Je dois lire une seule personne. Deuxième cas. Mataksut. Si une personne, continue la Mishnah, il nous dit, si une personne a trouvé un vêtement. Si elle a trouvé un vêtement. Voilà, donc c'est la page suivante. 29b2. Mataksut, si une personne a trouvé un vêtement. Menahara, tout ça c'est des cas qu'on va développer dans la Gemara. Menahara, achat ishloshimium. Il a l'obligation de secouer le vêtement une fois tous les 30 jours. Veshotra, letzorka. Il a également l'obligation de l'étendre. L'etsorka, ça veut dire pour le besoin du vêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que le vêtement prenne de l'air et pour pas que la moisissure s'attrape dans le vêtement. Parce que quand on laisse un vêtement dans une armoire, le vêtement peut moisir, le vêtement peut pourrir. D'accord? Quand on laisse trop de temps. Donc, tous les combien de temps j'ai l'obligation de l'aérer? Tous les 30 jours. Ça, c'est à peu près aujourd'hui, hein, quand on fait à peu près tous les 30 jours, il y a une rotation dans les placards, on aère un petit peu. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Parce que même si on fait plus longtemps que ça, on voit tout de suite que les vêtements prennent la saleté, prennent la poussière. Aval, le lirvodo. mais je n'ai pas le droit d'étendre le vêtement, l'irvodo pour mon honneur. Ça veut dire comme ça, j'ai trouvé un très beau vêtement. Hein. D'accord. Alors, je me dis qu'une fois tous les 30 jours, j'ai l'obligation de l'étendre. Mais l'étendre pour le bien du vêtement, pas pour mon bien. Pas pour dire, bon, bah, je vais l'étendre, que tout le monde voit que j'ai des beaux vêtements. Ça peut être un beau tapis, quand je dis un vêtement. D'accord. Ça peut être un beau tapis, ça peut être ce que vous voulez. D'accord. Ça peut être une belle nappe. Donc j'ai le droit de l'étendre pour le bien du vêtement, mais pas pour mon bien.
Donc c'est une charge alors.
C'est une... Ah oui, ça c'est clair.
Donc il vaut mieux ne rien trouver. Ah,
c'est toujours une charge.
Il vaut mieux ne pas trouver.
Il vaut mieux pas trouver, mais qu'est-ce qu'on fait si
on n'a pas le chemin.
On n'a pas le droit d'ignorer. D'accord.
Ah oui.
Alors, ensuite, clé kesef ou clé nechochet. Si une personne, troisième cas de la Mishnah, si une personne a trouvé des ustensiles en argent et des ustensiles en cuivre. D'accord. Et alors, donc ces ustensiles-là, de manière générale, pour les garder, on les met dans le sol. On les met dans le sol, à l'époque, on enterrait dans le sol pour les préserver. Le problème qu'on a, c'est quoi? D'accord. Donc pour les garder, pour éviter qu'on les vole, on les enterrait dans le sol, on les cachait. Parce que vous savez, à l'époque, les sols n'étaient pas comme aujourd'hui. À l'époque, les sols étaient en terre. Donc les gens cachaient des tas de choses chez eux à la maison. Ils cachaient des tas de choses, ils creusaient, ils mettaient l'objet, ils refermaient. Donc, je le cache, je vais bien le cacher chez moi, mais le problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'un objet en argent ou en cuivre que vous mettez dans la terre, il va s'oxyder. Il va s'oxyder. Ou bien comme Rachid dit, il va pourrir. D'accord. Bon, à l'époque, vous ne connaissez pas le terme d'oxydation. Mishtamesh Bahem, Letzorkan. Donc, je m'en sers de temps en temps. Ça, il n'y a pas de durée qu'elle a donnée. Mais Letzorkan pour le besoin de l'ustensile. C'est-à-dire que je ne le sors pas pour moi. Aval, l'eau, d'accord. Aval, l'eau le sarakan. Mais je n'ai pas le droit de m'en servir longtemps. Parce que quand je m'en sers longtemps, qu'est-ce qui se passe? L'ustensile va s'user. Ça veut dire comme ça. Imaginez-vous que si j'ai trouvé un verre de kidouche en argent. D'accord? À l'époque, comment garder les verres de kidouche? On les gardait pour les garder. Je parle des garder des voleurs. D'accord? Comment les garder? On les gardait dans le sol. Donc, je vais me mettre dans le sol. Mais le problème, c'est qu'il va s'oxyder, il va s'abîmer. Donc, il n'y a pas de durée qui a été donnée, mais de temps en temps, je le sors. Bah, si je le sors, je m'en sers. D'accord? Je m'en sers, je bois avec. Mais pas trop. Pas trop longtemps. Pourquoi pas trop longtemps? Parce que quand on utilise trop un ustensile, qu'est-ce qui se passe avec? Les sarakan, c'est-à-dire que l'ustensile va s'user. D'accord, il va s'user, il va se frotter. Donc comme a dit M. Guénich, c'est une charge. D'accord, c'est vraiment une charge de trouver quelque chose. Alors, matza, sac, okupa. Si une personne a trouvé, donc un sac, d'accord, okupa, ou bien kupa, c'est un grand panier. Vechol davar shen darkolitol, ainsi que toute chose que ce n'est pas l'habitude de prendre. Ça veut dire que c'est des choses que ça se fait pas de prendre. Ça me gêne de prendre dans la rue. Je l'ai trouvé, c'est vrai que je l'ai trouvé, mais ça me gêne, c'est pas de mon honneur. Ça se fait pas. D'accord? Par exemple, si je suis quelqu'un d'important, et que pour moi, ça se fait pas de me baisser pour ramasser un petit objet comme ça. Enfin, imaginez où je trouve une petite montre par terre. Ça se fait pas de me baisser. Même si ça m'appartenait, je me serais pas baissé pour la ramasser. Ça se fait pas. Alors, est-ce que j'ai l'obligation de ramasser ou pas? D'accord? Parce que apparemment, c'est une charge, mais cette charge s'arrête où? Qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Mishnah nous dit que arézé loitor. Je n'ai pas l'obligation de prendre l'objet. Et donc et je n'ai pas l'obligation de m'en occuper. Comme la Gemara expliquera plus loin en page 30, elle dira que on apprend du pasuk veit alamta que certaines fois, comme on développera ça dans la page 30, que même si de manière générale la Torah nous interdit d'ignorer un objet trouvé, on ne peut pas dire que j'ai pas trouvé. Y a pas, t'as vu, c'est fini, tu dois le prendre. Mais dans certains cas qu'on étudiera donc longuement dans la page 30, on a le droit d'ignorer. Le principe, c'est quoi? C'est quand c'est quelque chose qui n'est pas de mon honneur. C'est pas de mon honneur de ramasser. D'accord? Bon.
Quand on trouve... C'est une sorte de valeur là-dedans ou...
Non, c'est une sorte d'honneur. C'est une sorte de chose qu'on ne ramasse pas. Bon, la Gemara va développer, d'accord? Parce qu'après, c'est très facile.
Si vous avez une chaussette par terre, tu ne vas pas la ramasser.
Un billet de 500, on ramasse, non.
Mais une assiette en métal, tu te dis c'est peut-être de l'argent ou de l'or.
Tu ramasses pas.
Tu es obligé de la ramasser pour savoir si c'est
de l'or. Vous, alors, ok, si c'est votre honneur, moi je ne vais pas ramasser.
Si tu vois qu'elle brille, ça peut être de l'or massif.
Peut-être. Alors ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est entre vous et Dieu.
C'est vous qui voyez.
Mais bon, normalement, si c'est un objet qu'une personne importante, normale, se baisse pas pour ramasser, et que moi, pour moi, ça m'intéresse pas, ça se fait pas, ouais. Je n'ai pas l'obligation. Donc là, on apprend une chose. Regardez la Gemara maintenant, juste après. La Gemara va nous rajouter encore beaucoup plus que ça. Amar Shmuel a dit la chose suivante. Shmuel va nous parler du cas de quelqu'un qui trouve des tefilin. Amotse tefilin bashuk, celui qui trouve des tefilin, donc au marché. Quand on dit au marché, ça veut dire sur la place publique, d'accord, c'est l'expression de l'époque. Sham demehem, Donc il va évaluer la valeur des tefilin, donc il les fait évaluer. Ou meniham le alter, et il peut tout de suite, donc il garde cet argent chez lui à la maison. Donc ça c'est ce qu'a priori a dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Quelqu'un qui trouve des tefilin, qu'est-ce qu'il fait avec? En d'autres termes, il les revend et il garde cet argent. Bon. Pose la question Ravina. Métiv Ravina. Ravina pose une question sur Shmuel en se basant sur notre Mishnah. D'accord? Pose la question, genre, comment il traduit ici au Maniham Shah? Parce qu'il y a deux explications. Comment ça va comment il traduit ici? Les vend immédiatement et met l'argent de côté. Ouais, d'accord, c'est comme j'ai dit. Parce qu'il y a une autre explication qui dit que Umaniham les altère, ça veut dire qu'il met les tefilines tout de suite. Pas qu'il met l'argent de côté. Bon, une autre explication. Alors, il y a deux explications sur ça. Donc, Metiv Ravina a posé la question. Il a dit, je comprends pas ce que tu me dis. Pourquoi tu me dis que dès que je trouve des tefilines tout de suite, il faut les vendre? Attends, vas-y doucement. Pourtant, on a enseigné dans la Mishnah, Matsasfarim, si une personne a trouvé des livres, donc des livres c'est du parchemin. Oui. Korebaen, Echadish Loshimium. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que j'ai l'obligation de lire dans ces livres-là une fois tous les 30 jours. Veimeneude Alikrot, d'accord? Et s'il ne sait pas lire, qu'est-ce que tu m'as dit? Golelan. Eh ben, c'est une charge. Il a l'obligation de les enrouler une fois tous les 30 jours. D'accord? On n'a pas dit dans les livres que puisque c'est une charge, alors tu le vends et tu ne te prends pas la tête. Non, c'est une charge et c'est tout. C'est pareil pour les tefilines. Les tefilines, dans quel cas ils risquent de s'abîmer? Ils risquent de s'abîmer si on ne les déroule pas. Mais si tu déroules les tefilines tous les 30 jours, ils ne bougeront pas, ça ne bouge pas les tefilines. Le risque que les tefilines vont s'abîmer, c'est quoi? C'est qu'ils vont, ils vont s'abîmer, ils vont moisir, c'est du cuir. Mais si tu les déroules, comme le Sefer Torah, comme le livre que tu aurais trouvé, ça aurait marché. Donc Ravina pose des questions sur moi, il dit, je comprends pas. D'accord? Pourquoi deux mesures?
C'est le même principe.
C'est le même principe. Donc, Golelan in, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Le pire des cas, c'est quoi? On a dit, tous les 30 jours, tu lis. Tous les 30 jours, tu étudies. Dedans. Et si tu ne sais pas lire, le pire des cas, c'est quoi? Eh ben, on te dit, c'est pas grave, tu l'enroules tous les 30 jours. Golelan in. Donc, le pire qu'on a dit, c'est quoi? C'est qu'il faut les enrouler. Sham devem umeniham lo. Mais on n'a jamais dit que tu as le droit d'évaluer leur argent. Et de garder cet argent. Vous comprenez la question de la Gemara? Donc en d'autres termes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Shmuel est un Amora. C'est-à-dire Shmuel est venu à l'époque de la Gemara, 400 ans après la Mishnah. Et un Amora ne peut pas dire que le contraire de la Mishnah. Donc il doit se défendre, c'est parce qu'a priori, la Mishnah dit le contraire. D'accord? Donc comment on dit, attends, la Mishnah dit le contraire. Répond la Gemara, Amar Abaye. D'accord?
Il a trouvé une nuance.
Il a trouvé une nuance, bien sûr. Amar Abaye.
Il a
le il est venu, ça y est ouais. Le carreleur est venu?
Oui, ils sont là, je sais pas depuis quand, mais enfin, à 8h, ils sont pas là.
Attention, ils font pas de bêtises, hein. Dites-le à mon père.
Non, par contre, je vais leur rappeler qu'on veut mettre les toilettes en noir, par terre.
Ah oui, mais dites-le à mon père. Amar Abaye, Abaye a dit, Tfilin, Bebar, Chavu, Mishkar, Shkiré. Pourquoi Shmuel a donné l'ordre devant les Tfilin? Parce que, Bar, Chavu, qui était le sofer à cette époque, d'accord? Bar Chavu, donc c'était le sofer de l'époque, le sofer par excellence. Bar Chavu avait beaucoup de tefilines. Ça veut dire que il avait beaucoup de. C'était très facile avant de faire les tefilines. Quelqu'un y venait, il donnait l'argent, il avait des tefilines. Comme aujourd'hui. D'accord? Donc puisque les tefilines c'est fréquent, ça veut dire qu'on peut trouver des tefilines facilement, c'est pour ça que Shmuel a permis de vendre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, même si on va retrouver le propriétaire initial, normalement ça ne le dérange pas, tu lui donnes l'argent, il rachète une autre paire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien du tout. Mais par contre, les sfarim, les livres qui ne sont pas fréquents, ça, il faut savoir, c'est une réalité de l'époque. À l'époque, un livre n'était pas fréquent. Parce qu'à l'époque, un livre, quand on voulait un livre, il fallait le recopier mot à mot. C'était comme des tefilines, imaginez-vous. Et là, c'est pas fréquent. Donc là, dans ce cas-là, celui qui va trouver, il va dire, moi, je t'ai jamais demandé de le vendre. Donc avec ça, Abaye, il répond comme ça. Donc avec ça, Abaye répond sur Shmuel. D'accord? Abaye a défendu Shmuel et dit, je vais vous expliquer pourquoi Shmuel a dit qu'il fallait vendre les tefilines. Parce que les tefilines, c'est fréquent. Donc de là, on apprend une nouvelle chose. D'accord? Un nouveau cas de jurisprudence. C'est ce qu'on apprend. On apprend que quand c'est un objet qui est fréquent, qu'on peut retrouver facilement, on a le droit de le vendre. Alors que quand c'est un objet qui n'est pas fréquent, on n'a pas le droit de le vendre.
La halakha a été tranchée comme
ça. Attendez. Là, pour l'instant, on n'est pas encore à la halakha. D'accord? Mais là, on voit clairement qu'on a une différence. Que quand c'est un objet qui est fréquent, qu'on peut retrouver facilement, on a l'obligation on peut le vendre si on veut. Quand c'est un objet qui n'est pas fréquent, comme un Sefer Torah par exemple, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de le vendre. Et j'ai une charge pour moi, j'ai l'obligation de le tourner, de l'enrouler une fois tous les 30 jours. Ensuite, la Gemara elle continue, puisqu'on a parlé des halakhot, donc on a dit de garder un Sefer Torah. Donc on a parlé du Sefer Torah. Oui.
Et les tépilines, ça peut être une valeur personnelle. Ça veut dire,
oui, c'est vrai.
C'est celle de mon mariage, une bonne question. Ma bar mitzvah, donc même si tu me donnes l'argent et même plus, ça va pas me remplacer les miens.
Alors, c'est une bonne question.
Pourquoi ils autorisent
Le Rambam, le Rambam.
On décide de les perdre.
Alors, c'est une très bonne question que vous posez.
Quand on les perd, on ne décide pas.
On a parlé tout à l'heure de la charge.
Malgré
nous. D'un autre côté, il faut peser la charge que l'autre va avoir, de les enrouler tous les.
Tu vois son côté sentimental, lui, il voit le côté, bon, je sais, je vais les vendre, il y en a plein partout, et je mets l'argent de côté.
Ouais, mais bon, c'est.
C'est vrai ce que tu dis, c'est sentimental.
Mais comme le livre aussi, c'est pas.
Regardez. Rambam, Maïmonide, il parle de ça. Maïmonide, il parle de ça, il dit comme ça. Il dit que, c'est un principe aussi, c'est une jurisprudence, il dit comme ça. Il dit que, Tfilin matsui ou beyadakol, que les Tfilin sont, c'est pas dans la Gemara, c'est les commentaires. Il dit que les Tfilin sont fréquents chez tout le monde. Ve enna masuim ela le mitzvatan, bilvad. Et que des Tfilin ne sont faites que pour accomplir la mitzvah. C'est pas fini. Il explique. Shebish arzvarim, que dans les autres choses. Av shemitsuim liknotam, chaviv la dame d'avachar agilbo. Dans les autres choses, par exemple un livre, par exemple ce que vous voulez. Même si on peut en retrouver facilement. Une personne a ses petites habitudes et il sera content de retrouver l'objet qu'il a perdu. Eh bien. Abat tfilin, mais les tfilin. She'en tachlitam ela le mitzvah. Que le but des tfilin, c'est que pour faire la mitzvah. Bilvad. En adam ragil lakpit miyotse be'elu ou be'elu. Une personne ne doit pas faire attention si c'est cette tfilin ou cette tfilin. Vous voyez? Très fort. Ça veut dire que sur un autre objet, sur une chaise par exemple, je peux dire, écoute, c'est vrai que je peux racheter une autre chaise, mais c'est ma chaise. Je suis habitué, j'ai mes petites habitudes. Mais sur des téfilines, le principe qu'on nous apprend, c'est que des téfilines, enamasuim et la mitzvatan, c'est-à-dire les téfilines ne sont faits que pour leur mitzvah. Ça veut dire que ça, moi, ça ne me change rien si je mets des téfilines avec telle téfiline ou telle téfiline. Ça ne me change rien.
C'est son avis.
Oui, c'est son avis. Parce que, attention, je vais récupérer des téfilines du même calibre. Ah oui. Si j'ai perdu des téfilines qui valent 1000 euros.
Moi, je parle de la valeur sentimentale.
Bon. Ça, on fait pas attention à ça.
Je porte toute l'année sur ma tête.
Et ben voilà.
Il faut pas trop s'attacher peut-être à des.
Oui. Hein, c'est ce qu'il dit, c'est clairement, c'est Maïmonide, c'est pas moi.
La profondeur.
Non, mais
faut pas s'attacher
non,
trop.
Mais c'est pour tout le monde.
Oui.
Quand on lui offre sa paire de tefilin et il va faire ses cheveux avec,
oui,
elle a une valeur forcément.
Tu vois, je te dis, c'est pareil peut-être pour les mezuzot aussi.
Il faut bien comprendre quelque chose. C'est une charge ici. C'est que d'un autre côté, il faut comprendre que l'autre, il va devoir dérouler votre tefilin sans les mettre une fois tous les 30 jours. Vous comprenez, c'est une galère.
Elle est minime, cette charge.
Quoi ? Ah non. Imaginez-vous, chaque mois, ça peut durer des années comme ça.
Si tu en trouves 10.
D'accord.
Ah, mais non. Le livre, pour moi, moi, je vois pas la différence entre un livre et les téfilines.
Non, justement, moi, c'est que...
L'habitude, c'est dans les deux...
C'est qu'un livre, alors voilà, un livre, c'est pas fait pour...
Des choses,
regardez, un livre, c'est pas fait pour une mitzvah. Un livre, c'est fait pour étudier. Étudier, c'est une mitzvah. Mais le livre en soi n'est pas une mitzvah. Donc on peut comprendre qu'une personne a ses petites habitudes, il sera content de retrouver le livre qu'il a perdu. Mais les téfilines, ça c'est un principe énorme qui nous dit Maïmonide, les téfilines sont faites que pour leur mitzvah.
Moi je le comprends.
Ça veut dire, on te dit, il n'y a pas de... Bien sûr que c'est mieux si tu as tes téfilines, mais les téfilines, bien sûr qu'après c'était des téfilines qui ont appartenu à Baba Salé ou à je sais pas qui vous voulez, c'est possible. Mais bon, nous on parle sur une majorité. Les téfilines sont faites pour la mitzvah. Ça veut dire que si j'ai pas mes téfilines, je dis pas, bon j'ai pas mes téfilines, je suis gêné, les téfilines d'un autre. Non. Les téfilines sont faites pour la mitzvah.
Pareil pour le talit.
On va pas parler du talit encore. A priori, ça devrait être la même chose. Ça devrait être la même chose. C'est que c'est un objet qui n'est fait que pour la mitzvah, pas pour une valeur sentimentale. Ça... Non, mais votre question, c'est une très bonne question. C'est pour ça que Maïmonide en a parlé. Parce que c'est vrai que c'est étonnant. D'accord. Alors, Tanou Rabbanan, les Chachamim m'ont enseigné. Ashoel, Sefer Torah, Mechavero. Les Chachamim m'ont enseigné. J'ai enseigné la chose suivante, donc puisqu'on en parlait de Sefer Torah. Ashoel Sefer Torah Mechavero, une personne qui emprunte un Sefer Torah de son ami. Ça, c'était fréquent à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas de livre. Donc on empruntait, viens, je t'emprunte un Sefer Torah, tu me rends mon Sefer Torah, c'était fréquent. Ashoel Sefer Torah Mechavero, une personne qui emprunte un Sefer Torah de son ami. Areze, lo yash ilenu le acher. Donc, imaginez-vous, monsieur Guiné, je vais me prêter un Sefer Torah, j'ai pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. D'accord, c'est logique. Bon. Mais, potro ve korebo, donc bien entendu, si je l'ai emprunté, c'est pour l'étudier, donc j'ai le droit de l'ouvrir et de lire. Ou bilvad, chez l'eau, il me veut batechila. Mais, je n'ai pas le droit d'étudier un sujet que je n'ai jamais étudié. D'accord? Sauf si, j'ai prévenu, ça veut dire comme ça. Imaginez-vous, monsieur Guiné, vous avez un Sefer Torah. Mm-hmm. Je vous emprunte le Sefer Torah. J'ai pas le droit d'étudier dans le Sefer Torah un sujet que j'ai jamais étudié. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que quand on étudie un sujet que j'ai jamais étudié, automatiquement, je reste plus longtemps et je l'abîme. Le seul cas où c'est permis, nous explique le Meiri, c'est si je vous ai demandé explicitement. Je vous ai dit, je vous emprunte le Sefer Torah. pour étudier un nouveau sujet. Là, c'est permis. Mais sinon, par défaut, les gens pensent que tu connais déjà le sujet, que tu vas juste lire la Torah, c'est tout.
C'est le même cas. D'accord ?
Le même cas que le livre. Donc, vélo, ikrabo, vélo, ikra, acher, imo. Pareil. Donc, c'est pas exactement le même cas que tout à l'heure, parce que dans le cas de tout à l'heure, c'était quelque chose que j'ai trouvé. Là, on parle d'un emprunt. D'accord ? Donc, vélo, ikra, acher, imo. Pareil. Une autre personne n'aura pas le droit de lire avec moi. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit, un tire d'un côté et l'autre tire d'un autre, et le livre risque de se déchirer. Vechen, pareil. Amavkid, Sefer Torah, et Tselchavero. Une personne qui met en dépôt un Sefer Torah chez son ami. Golelo, Kol Shnamasar Chodesh. Donc, imaginez-vous que Monsieur Guénich, vous me donnez votre Sefer Torah en dépôt chez moi. Golelo, Kol Shnamasar Chodesh, j'ai l'obligation de l'enrouler tous les 12 mois. Donc là, on a parlé de trois cas différents. Là. Dans la Mishnah, on a parlé du cas d'une trouvaille. On a parlé du cas de l'emprunt. D'accord ? Donc apparemment, l'emprunt, c'est la même responsabilité qu'une trouvaille. Et on parle maintenant de quelqu'un qui, Monsieur Galin, il me donne un Sefer Torah en dépôt. J'ai l'obligation, d'accord, puisque j'ai accepté de, donc, qu'on me dépose un Sefer Torah chez moi, d'accord, même gratuitement. Donc, dans ma charge, c'est quoi? C'est que je dois le dérouler une fois tous les 12 mois. Potro Vekorebo. Et, une fois que je l'ouvre, j'ai le droit de lire, d'accord, j'ai le droit de l'ouvrir et de lire. Im Bijvilo Ptacho Asur. Par contre, si je l'ai ouvert, le Sefer pour moi, ça veut dire que je ne l'ai pas ouvert pour le bien, je l'ai ouvert pour moi parce que j'ai envie d'étudier, là dans ce cas-là, c'est Asur. Soumchous Omer, Soumchous il dit, Bechadash, Kosh Koshimium. Il nous dit attention, il nous dit quand c'est un livre, quand c'est un Sefer Torah qui est neuf, dans ce cas-là, j'ai l'obligation de l'ouvrir, il passe pas une fois tous les 12 mois, mais une fois tous les 30 jours. Pourquoi ? Parce qu'un Sefer Torah qui est neuf va s'abîmer plus rapidement. D'accord ? Parce que l'encre n'a pas encore séché comme il faut, à 100%. Ou Beyashan, mais quand c'est un Sefer Torah qui est ancien, Shlem Asachodesh, là on retourne à nos 12 mois. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Echadze veechadze Shlem Asachodesh. Un Sefer Torah ancien ou un Sefer Torah nouveau, c'est toujours 12 mois. Si je vous pose la question, quelle est la différence entre le premier et le troisième avis?
Le premier,
c'est quoi le premier avis? Premier avis, non. Il y a un premier avis qui a dit que... Le premier avis qui a dit que quoi? Qui a dit que quand quelqu'un me donne un Sefer Torah gardé en dépôt, je dois le dérouler une fois tous les
12 mois.
12 mois. Bien. Deuxième avis, qu'est-ce qu'il me dit, Soumprous? Il me dit, attention,
il y a un neuf et un vieux.
Le neuf, 30 jours, le vieux, 12 mois. Troisième avis, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, le neuf et le vieux, 12 mois. Donc je vous pose une question, est-ce qu'il y a une différence entre le premier et le troisième avis?
Le premier disait 12 mois.
12 mois.
Le deuxième disait le neuf et le vieux. L'autre, il ne faisait pas de
distinction et il disait aussi...
Logiquement, il n'y en a pas.
Donc, logiquement, il n'y en a pas. D'accord ? C'est pour ça que la Gemara après devra modifier la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Elle devrait dire qu'il y a une erreur ici. Parce qu'il n'est pas venu pour rien dire. Ah oui ?
Oui.
La Gemara dira plus tard que Rabbi Eliezer ben Yaakov voulait dire autre chose. Oui, il voyait tout de suite, il y a un problème là.
Oui.
Ça ne sert à rien ce qu'elle dit, on savait déjà. Bon. Amar.
C'est quoi ça ?
D'accord ?
Quoi ?
Ah, on verra. Amar Mar va être enseigné. Ashoel Sefer Torah Mechavero. On a enseigné comme ça. Donc tu viens de me dire qu'une personne qui emprunte un Sefer Torah à son ami, a raisé le Yeshilenu le Acher. Tu me dis que j'ai pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on vient de dire. D'accord ? Si Monsieur Guénich, vous me prêtez votre Sefer Torah, je n'ai pas le droit de moi, je n'ai pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Très bien. La Gemara pose une question très simple. Maïria Sefer Torah, pourquoi tu me dis celui qui emprunte un Sefer Torah ? Afilou comme il est un ami. Toute chose qu'on emprunte, on n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre. Toute chose que j'emprunte. J'emprunte quelque chose à quelqu'un. Monsieur Daniel, j'emprunte votre Gemara. Est-ce que j'ai le droit de la prêter à quelqu'un d'autre? Non, c'est logique. Pourquoi tu me dis celui qui emprunte un Sefer Torah? On dirait que Sefer Torah, c'est quelque chose de spécial. Non. Il faut me dire, tu aurais dû me dire celui qui emprunte tout objet. Parce que quand tu dis Sefer Torah, c'est ambigu. Ça laisse penser qu'un Sefer Torah, c'est permis, c'est interdit, mais une autre chose, peut-être, ce sera permis. D'accord? D'où on sait que toute chose est interdite? D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish nous a dit. D'accord? Alors, de quoi il parle Rabbi Shimon ben Lakish? Il parle d'une Mishnah qu'on a appris dans le traité Gittin. Ça tombe bien, on l'a appris il n'y a pas longtemps. D'accord? On a dit comme ça, on avait dit que si une personne envoie un guet en Eretz Israël, vous savez dans la Mishnah qu'on fait le lundi et jeudi matin, si une personne envoie un guet en Eretz Israël, d'accord? On a dit qu'il peut le faire passer par quelqu'un d'autre. Imaginez-vous que Reuven doit envoyer un guet à sa femme. Donc on a dit qu'il peut le faire passer par Shimon. Maintenant, imaginez-vous que Reuven dit à Shimon, il lui dit, avant que tu donnes le guet à ma femme, d'accord, il faut que tu lui prêtes cet objet. Attention, tu lui donnes pas le guet tant que tu n'as pas repris cet objet. Par exemple, une alliance ou ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que M. Shimon n'a pas le droit d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Pourquoi? Parce que un propriétaire ne veut pas que ce qu'il a donné en dépôt soit dans la main de quelqu'un d'autre. Si je te nommais toi Reuven, toi Shimon, c'est Shimon que je veux, pas quelqu'un d'autre. Et écoutez bien ce que dit Resh Lakish sur ça, vous allez voir le rapport. Il a dit Kan Shana Rabbi En Ashoel Rasha Ileashil Ven Asoch Rasha Ileaski. Et sur ça, Resh Lakish il avait dit que ici, lorsque Rabbi Udanasi nous a appris ça, cette Mishnah là que je viens de dire dans Gittin, juste après, il nous a appris une autre Mishnah qui disait En Ashoel Rasha Ileashil Ven Asoch Rasha Ileaski. Vous savez, à l'époque, tout était basé sur la mémoire. Et Resh Lakish a dit oui, je me rappelle. Quand Rabbi Udanasi nous avait enseigné cette Mishnah de Gittin, bon, peu importe, ça ne sera pas des détails, d'accord? Il nous avait dit juste après, il nous dit, attention, que celui qui emprunte n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre, et celui qui loue n'a pas le droit de louer à quelqu'un d'autre. Donc a priori, retour à la question qu'on a posée, c'est quoi la question qu'on a posée? Pourquoi, chez nous, on nous a dit, celui qui emprunte un Sefer Torah à son ami? Pourquoi tu m'as donné le code d'emprunter un Sefer Torah? Même si ce sera un autre objet. Quand j'emprunte un objet, j'ai pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi tu m'as pris le cas du Sefer Torah? Vous suivez la question?
Moi, je...
Ah ben. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On a dit, Tanou Rabbanan et Chachamim m'a enseigné, celui qui emprunte un Sefer Torah à son ami, il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre.
D'accord.
Très bien. La Gemara pose une question très simple. Elle dit, je comprends pas. Elle dit, mais pourquoi tu me dis un Sefer Torah? C'est pas que un Sefer Torah, tout objet.
D'accord.
Et elle m'a dit une preuve. Qu'est-ce qu'il vient de dire Resh Lakish? Resh Lakish, il a témoigné que Rabbi Udanasi leur a dit que En Ashoel Racha Ileaskir, Ven Asoher Racha Ileaskir. Que celui qui a emprunté n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre, et celui qui a loué n'a pas le droit de louer à quelqu'un d'autre. On n'a pas fait de différence entre Sefer Torah et Sefer Torah. Donc pourquoi toi ici tu me dis un terme ambigu? Tu me dis, on n'a pas le droit, d'accord? Celui qui emprunte un Sefer Torah n'a pas le droit de le prêter. Mais pourquoi tu dis un Sefer Torah? Parce que c'est pas qu'un Sefer Torah, tout on n'a pas le droit d'en prêter. Alors, la Gemara répond la réponse suivante. Elle dit, non, tu as raison. En vérité, ce dit-là va s'appliquer sur tous les objets. Pourquoi on a parlé d'un Sefer Torah? Parce que le Sefer Torah, j'aurais pu penser, qui ne rentre pas dans la catégorie de tous les objets. Que tous les objets, on n'a pas le droit, mais le Sefer Torah, j'aurais pu penser que lui, on peut le permettre. Pourquoi? Regardez bien. Sefer Torah, il s'en est allé, le Sefer Torah, j'ai besoin. Ma ou des thèmes, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Ni chalele inish deti aved mitzvah bemamoné. J'aurais pu penser qu'une personne a envie qu'on fasse des mitzvot avec son argent. Kamash malat, c'est ça qui nous apprend. C'est-à-dire comme ça. Quand on a enseigné ici que celui qui emprunte dans ses fers torrents, il a parlé de le prêter à quelqu'un d'autre, on savait déjà ce que Resh Lakish nous a appris. Que quand, si je vous emprunte votre Gemara, je parle de le prêter à quelqu'un d'autre. On savait déjà. Mais on s'est dit, peut-être dans ses fers torrents, c'est différent. Pourquoi c'est différent?
Là, il y a beaucoup de choses, je sais.
Parce que oui, c'est la raison. D'accord. Pourquoi on a pris le Sefer Torah comme exemple? Parce que le Sefer Torah, c'est un exemple d'une chose sur laquelle on fait une mitzvah avec. J'aurais pu penser que la personne, je me dire que, même si M. Guinness voulait prêter votre Sefer Torah, mais c'est possible que vous êtes intéressé qu'une autre personne va dire dedans pour faire une mitzvah. Peut-être. Il y a une logique. D'accord? Donc c'est pour ça que...
Donc, comme c'est le plus haut, c'est le baromètre que tous les...
Voilà. D'accord?
Qui servent à une mitzvah, on peut aussi les prêter.
Kalvachomer, à plus forte, donc comme vous dites ici, Kamash Malan, ça nous apprend que quoi? Que même dans un Sefer Torah, on n'a pas le droit. Alors les commentaires s'arrêtent dessus, ils disent que, même si on a dit ce principe-là pour un Sefer Torah, donc on a priori, on n'accepte pas le principe qu'une personne aime qu'on fasse des mitzvot avec son argent. C'est ça, ça veut dire.
Oui,
on n'accepte pas ce principe. On dit, tu veux faire des mitzvot, il faut demander avant. On ne peut pas des mitzvot comme ça. Alors il faut savoir que le Shulchan Aruch a dit néanmoins, que c'est valable pour un Sefer Torah, mais il y a beaucoup d'autres mitzvot pour lesquelles c'est pas valable. Par exemple, d'accord? J'ai le droit de prendre le talit de mon ami et de faire la bracha dessus. Un talit de quelqu'un qui est posé à la synagogue.
Attendez.
J'ai le droit de le prendre et de faire la bracha dessus. Même si je ne l'ai pas demandé. Le seul cas où c'est interdit, c'est si je sais qu'il ne veut pas. Mais par défaut, j'ai le droit. Également, pour les tefilines aussi. Les tefilines, on dit, c'est écrit que les tefilines, c'est permis. D'accord? Les tefilines, j'ai le droit de mettre les tefilines de quelqu'un. Le seul objet sur lequel c'est, lequel c'est interdit, c'est un Sefer Torah. Parce qu'apparemment, un Sefer Torah, ça s'abîme beaucoup plus qu'un talit. Un talit, combien ça va s'abîmer déjà? Maximum, il s'allie, tu le laves. D'accord? Les tefilines, combien ça va s'abîmer déjà? Il faut s'accrocher pour abîmer les tefilines. Mais un Sefer Torah, regardez, je t'envoie un Sefer Torah, on l'a roulé qu'une fois ici. Je vois tout de suite qu'avec le temps, ça commence à se corner un petit peu dans certains endroits. C'est normal, c'est l'usure, l'utilisation. D'accord? Donc, c'est pour ça que la Mishnah nous a dit un Sefer Torah ici. pour te dire, même un Sefer Torah que j'aurais pu penser, ils vont lire à la synagogue, ils vont faire une mitzvah. T'as pas le droit. Tu l'as prêté à un tel, d'accord? Si tu veux le prêter à quelqu'un d'autre, il faut demander la permission. D'accord? C'est important, ça.
C'est très important. Ouais. Donc si, par exemple, la synagogue lui demande, on n'en a pas, tu
le... Oui. C'est pour ça que quand, par exemple, nous, la première fois qu'on nous a emprunté un Sefer Torah de... On prenait un Sefer Torah de l'école Yevnia, un Sefer Torah qui appartenait, je crois, à la famille Abergel, ou je ne sais plus qui, on avait demandé la permission. Puisque la famille a prêté le Sefer Torah à l'école, mais elle ne l'a pas prêté à nous. Même si l'école s'en sert, elle n'a pas le droit de le prêter. Il faut demander. D'accord? Même si c'est un Sefer Torah, et même si on va faire une mitzvah, on va danser avec tout ce que vous voulez. Parce que c'est ça. Peut-être que la personne ne veut pas. Il préfère que l'objet reste chez lui. Bon. Ensuite. Alors, on continue, après on dit... On enseignait ensuite dans la Braïta, tu m'as dit que potro ve korebo. Donc on analyse toujours la suite. D'accord? Qu'est-ce que tu m'as dit? On a dit tout à l'heure, celui qui emprunte un Sefer Torah de son ami, il a parlé au prêté à quelqu'un d'autre. Alors, on a expliqué maintenant pourquoi on a parlé d'un Sefer Torah et qu'on n'a pas parlé de tout objet. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'as dit que potro ve korebo. Tu m'as dit que j'ai le droit de l'ouvrir et de le lire. Bah, c'est évident. C'est si je l'ai emprunté, pourquoi je l'ai emprunté? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On a dit, juste avant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, celui qui emprunte un Sefer Torah à son ami, il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre, et il a le droit de l'ouvrir et de le lire. Mais il n'a pas le droit de démarrer un nouveau sujet. Très bien. Ben c'est évident qu'il l'ouvre et qu'il va lire. Pourquoi tu crois qu'il l'a emprunté? Il l'a emprunté pour le garder chez lui à la maison. Maradi Pshita, c'est évident. Et pourquoi tu crois?
Il faut tous les 12 mois.
Non. Enfin, si j'emprunte un séparateur à quelqu'un.
Ah, si j'emprunte, pardon.
D'accord. Pshita, c'est évident. Vela les matchs, il a miné. Pourquoi tu veux qu'il l'a emprunté? Il l'a emprunté pour le garder chez lui comme ça, en vitrine. Maradi, non. C'est pas Itzarichale. Obilva, tu le mets au bout. Tu as raison. Quand en vérité, toi, tu veux couper la phrase en deux. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit. On a dit, celui qui emprunte un Sefer Torah à son ami, il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit? Il ouvre et il a le droit d'étudier. Troisièmement, qu'est-ce que tu m'as dit? Il n'a pas le droit de démarrer un nouveau sujet. Alors, là, on pose la question, on dit, excuse-moi, ton point numéro 2, il veut rien dire. Ben, c'est évident que si j'ai emprunté un Sefer Torah, c'est pour l'ouvrir. Regardez comment il répond à la Gemara. Il m'a dit non. Toi, tu as fait une erreur ici en séparant le point numéro 2 et le point numéro 3. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, celui qui emprunte un Sefer Torah n'a pas le prêter à quelqu'un d'autre, il le lit. Il l'ouvre et il le lit, deuxièmement. Troisièmement, d'accord? Troisièmement, qu'est-ce qu'on a dit? Il a pas le droit de démarrer un nouveau sujet. C'est une erreur, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Dans la Mishnah, il n'y a pas 3 points, il y a 2 points. Donc là, tu avais raison, c'était une question que tu m'as dit. Le deuxième point est superflu. Tu me dis, il ouvre et il le lit. Bien sûr, pourquoi je l'ai emprunté? Alors, c'est pour le lire. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Premier point de la Mishnah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, celui qui emprunte un Sefer Torah n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Ça, on bouge pas. Ensuite, on va faire une fusion entre le deuxième et le troisième. C'est qu'on dit comme ça, tu as le droit de l'ouvrir et de le lire, mais tu n'as pas le droit de démarrer un nouveau sujet. Vous me suivez?
Oui, mais quelle est la différence entre ce que tu viens de dire et si on fait en 3 points?
C'est que si on fait en 3 points, le deuxième point ne veut rien dire. Il est en trop.
Ah, parce qu'on sous-entendu, si tu l'empruntes, c'est pour le lire.
Bien sûr. Si tu me dis que c'est en 3 points, premier point, tu me dis, d'accord, j'ai pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Deuxième point, j'ai le droit de l'ouvrir et de le lire.
D'accord. Ça, c'est...
Troisième point, j'ai pas le droit de démarrer un nouveau sujet. Attends, deuxième point, j'ai le droit de l'ouvrir et de le lire. Bah, bien sûr, pourquoi tu veux que je l'emprunte? C'est pas comme ça qu'il faut dire. D'accord. Deuxième et troisième point, il faut faire une fusion. J'ai le droit de l'ouvrir et le lire, mais pas
de commencer
un nouveau sujet. C'est-à-dire qu'il y a un seul point ici, il n'y a pas deux points. D'accord? Bon. Ensuite, on continue la Gemara. On a dit, Vechen, Amafkit Sefer Torah et Tsechavero, Gollo Kolchlem Asachodesh Potro Vekorebo. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pareil, une personne qui met un Sefer Torah en dépôt chez son ami, il a l'obligation de... Donc là, c'est plus un emprunt, c'est un dépôt. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit? On a eu trois avis. C'est quoi les trois avis? Premier avis qui a dit qu'il faut l'enrouler tous les...
30 jours.
Tous les 12 mois. Ouais. Deuxième avis, M. Daniel, qui a fait la différence entre un Sefer Torah...
9 et ancien.
D'accord, et ancien. Et troisième avis...
C'est la même chose que le
qui n'a pas fait la différence. Premier, d'accord. Alors, donc on a dit, Vechel Amafkit Sefer Torah de Sachavero, une personne qui met un Sefer Torah en dépôt chez son ami, Golo Koshlema Sachodesh, d'accord, il le déroule tous les 12 mois, Potro Vekorebo. Et donc il l'ouvre et il le lit. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'a compris la Gemara? La Gemara a compris, c'est que s'il veut, quand tu lui dis qu'il l'ouvre et qu'il le lit, ça veut dire qu'il a le droit de le lire même pour ses besoins. La Gemara pose la question, elle dit, Maï Avite Gabé. Et je comprends pas, ce Sefer Torah ne lui appartient pas. Pourquoi tu me dis, il ouvre et il lit? On ne lui a pas demandé de lire. On t'a donné un Sefer Torah en dépôt. On ne t'a pas prêté. Mais tout et encore, une deuxième question. Im bishvilo ptacho. Asso? C'est quoi cette histoire? tu me dis ici que tu l'ouvres pour lui, mais c'est un sourd, t'as pas le droit, t'as des noms d'objets à garder. La Gemara a dit non. Amra, tu peux trouver Gorebo. Achika Amar. Quand Imkshu Golelo potrove korebo, muta, imbishvilo ptacho, asso. D'accord. Donc là pareil. Là encore une fois, c'est le même style de. Le même style de question que je posais tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? D'accord? On a dit comme ça. C'est la même chose. On va croire qu'il y a trois points, mais en vérité, il n'y en a que deux. Écoutez ce que je suis en train de dire. D'accord? On dit comme ça. Si M. Daniel me donne un Sefer Torah à garder en dépôt, premier point. Je l'ouvre et je lis dedans. Je l'ouvre et j'étudie. Deuxième point. D'accord? Si c'est pour le besoin du Sefer Torah, j'ai le droit de l'ouvrir. D'accord? Troisième point. Si c'est pour le besoin, si c'est pour mes besoins, moi, j'ai pas le droit de l'ouvrir. Là, la Gemara qui attaque tout de suite avec la même chose, il dit, attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis dans le premier point? Tu me dis, quelqu'un qui me donne un Sefer Torah à garder en dépôt, je l'ouvre et je le lis. Mais t'as pas le droit. Tu t'as donné un garde en dépôt, on ne l'a pas prêté. Vous me suivez? Je répète. Tu me dis comme ça, si M. Daniel, tu m'emprunte un Sefer Torah, premièrement, j'ai le droit de l'ouvrir et de le lire. Bon. Deuxièmement, j'ai le droit de l'ouvrir et de le lire que pour le besoin du Sefer Torah et pas pour moi. Attends, tu te contredis là. Tu viens de me dire au début que j'ai le droit de l'ouvrir et de le lire. Donc là, la Gemara va faire la même manipulation qu'elle a fait tout à l'heure. Qu'en vérité, il ne faut pas séparer les deux phrases. Il faut mettre les deux phrases en une seule phrase. De dire, si M. Daniel me prête un Sefer Torah, j'ai le droit de l'ouvrir que pour le besoin du Sefer Torah et pas pour moi. Ça veut dire, faut pas dire qu'il n'y a pas, bien qu'en hébreu on a l'impression qu'il y a deux phrases différentes. Première phrase qui me dit j'ai le droit de l'ouvrir et de le lire. Deuxième phrase qui me dit tu as le droit pour le Sefer Torah et pas pour toi. En vérité, il faut dire que c'est une seule phrase.
Donc on le lit qu'une fois tous les 12 mois.
Oui, parce que c'est un dépôt.
Donc une fois tous les 12 mois.
Donc c'est comme on l'a compris tout à l'heure, mais c'est juste on a eu juste un jeu de mots à faire ici. Un jeu de mots de dire que même s'il y a eu une certaine ambiguïté, on avait l'impression que il y avait deux phrases qui étaient dites dans la vérité ici. Une phrase qui me dit que j'ai le droit de le lire et une phrase qui m'a fait la différence entre certaines. En vérité, c'est une seule phrase.
Donc c'est interdit.
C'est comme dans les textes juridiques. Dans les textes juridiques, des fois, le même texte, il peut se découper en deux. Voilà. Bon, maintenant on arrive à la question de M. Guénich tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? Soumprous Omer, qu'est-ce qu'a dit Soumprous? Bechadash Shloshimium. D'accord? Il a dit qu'un Sefer Torah neuf qui s'abîme rapidement. Donc on doit l'ouvrir tous les 30 jours. Ou Beyashan, et on a dit qu'un Sefer Torah qui est ancien, Shlemasa Chodesh. Jusqu'à là tout va bien. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. D'accord? Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit Echadze ve Echadze, quand Shlemasa Chodesh, que le vieux et le neuf, c'est 12 mois. Et moi, on pose la question, elle dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Aïlou Tanakama. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit la même chose que Tanakama, c'est-à-dire que le premier avis. Quelle différence? D'accord? Il n'est pas venu pour rien dire. Et de là, la Gemara arrive à la conclusion, elle dit qu'on est obligé de dire, et là, Emma, seulement il faut dire, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Echadze ve Echadze Shloshimium. Il faut dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit que le neuf et le vieux, c'est 30 jours. Donc là, on a nos trois avis. Premier avis qui dit, dans tous les cas, premier avis qui me dit, dans tous les cas, neuf et ancien, c'est toujours 12 mois. Deuxième avis qui me fait la différence, qui me dit, 9, 30 jours, l'autre 12 mois. Troisième avis qu'on vient de changer maintenant.
Non, mais il dit 30 jours, mais je comprends pas. Alors pourquoi il a dit 12 mois avant?
C'est une mauvaise erreur
d'orthographe.
Oui, c'est une erreur. C'est une erreur de transmission.
Parce que je comprends pas, il a pas changé d'avis en tout temps.
Troisième avis, c'est nous qu'on a mal reçu. On est obligé de dire. Troisième avis, c'est quoi?
30 jours.
30 jours. Là, on comprend.
Je vais comprendre. Par exemple, ça, ils savent, quand ils ont écrit, c'est faux, ils le mettent quand même.
Oui, bah oui, parce que c'est le dialogue qu'il y a eu dans le... Bien sûr. On nous raconte le dialogue qu'il y a
D'accord. Mais ça peut pas fausser un peu le...
Ah non, c'est pas de la halakha, ça, c'est l'agmara. L'agmara, il faut... Tant qu'on n'a pas fini, on peut pas savoir.
D'accord. On va dans tous les... D'accord. Donc, c'est 30 jours.
On s'arrête ici et on passe à la chazara. Voilà.